Salut. Vos oreilles interceptant ces mots, il est donc de supposer que nous avons les mêmes préoccupations. Nous éprouvons ce besoin physique de vous faire part de nos coups de cœur, voire de les exprimer tout simplement. Goutte d'encre dans une mer d'informations, poignée de hertz alternatifs dans un océan de décibels. Et des larmes de bonheur ou de rage plein les yeux après avoir vu un film ou lu un livre. Et voilà que nos voix s'en viennent charmer la bande FM. Et vous, chers auditeurs. Alors, attention, soyez intelligemment en marge, lisez, regardez, soyez curieux pour que personne, mais personne, ne le soit jamais à votre place. Vous êtes bel et bien sur Radio Brodionnet et vous écoutez Les Détourneurs de Corbillard. Content de vous retrouver sur l'antenne de Radio Brodionnet, bien content comme tous les dimanches de vous attendre sur nos bords de route, prêt à bondir et à vous désarçonner et vous emmener dans des embardés pas possibles à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles sensations, de nouvelles pratiques. L'emphase, par exemple. Méthode ultime. Quand il ne reste plus assez de mots pour louer les prodiges. Et de prodiges, il en est un. Arc, notre artiste de la semaine. Bonne émission.
If you can control, if you try to tell me what I feel, if you can control, if you
Avec Arcpocalypse Now, Arc signe son grand retour. Beaucoup de générosité, de hardiesse aussi dans cette quête d'originalité que concrétise ce disque. Beaucoup d'humilité aussi, et finalement pas mal d'humanité dans le cœur de cet artiste qui le met tout entier au service de son œuvre. Tout bonnement fantastique, fantastique. Album Arcpocalypse Now, c'est chez Perlon et c'est signé Arc. Introduction de la semaine dernière, sévère mise en bouche s'il en est, nous annoncions notre souhait de ressortir de la naphtaline les petites sœurs crado et pas montrables du féminisme. Parce qu'il nous semblait urgent qu'on reparle de toutes celles qui, à différentes époques, sous leur capuche noire, étaient et sont encore nombreuses à s'insurger. Parce que les femmes continuent d'être marchandées, happées, pesées, fouillées, jaugées, violées par l'homme mondialisé derrière les portes closes des beaux appartements bourgeois aussi bien que dans les banlieues. Parce qu'il est primordial de reprendre par la main celle-là, invisible, qui, sur le bord, regarde de trop loin. Réapprendre la bagarre ensemble, celle qui fait transpirer, et répandre la joie explosive des fêtes impolies. Parmi ces bandites fiévreuses, ces enfants acharnés à ne pas rester là où on les pose, il en est une, unique, historique. Voltairine de Clare. On en reparle de suite. Children's a cloud in my head. When everything is wrong, I dance inside my mind. That's when I come alive, like a kid so running wild. That's when I come alive. Now let's go wild. Come on, come on. I'm kicking at your window and keeping you up. We're dancing in a dungeon every Monday night. That's when we come alive, like a schizo running wild. That's when I come alive. Now let's go a mess. Take me 6 feet under, but while your roses died, I came alive. Voltairine de Clare est née le 17 novembre 1866 à Leslie dans le Michigan. Libre penseur, son père admire beaucoup Voltaire, notamment sa critique de la religion, ce qui explique le choix du prénom de sa fille. Le grand-père maternel de Voltairine avait défendu des positions abolitionnistes et participé au chemin de fer souterrain, filière clandestine, filière qui aidait les esclaves à fuir jusqu'au Canada. Quant à son père, lui-même, il avait émigré de France et était un artisan socialiste et libre penseur. Il travaille de très longues heures pour gagner un maigre salaire. Sa femme fait des travaux de couture à domicile. Et leurs enfants sont constamment sous-alimentés et très faibles physiquement. Selon Heidi, l'une des sœurs de Voltairine, leur enfance misérable explique le radicalisme de la belle, ainsi que sa profonde sympathie et sa compréhension pour les pauvres. Ses difficultés matérielles contribuant également à multiplier les points de friction entre leurs parents qui finissent par se séparer.
Tu dis vouloir mourir pour la vie d'un enfant. Tu dis vouloir aimer regardait ta télé sur le coco usé, les mégots décharnés, le cri, la solitude des hommes désœuvrés. Tu dis pouvoir partir, aller par les rosards et faire de ton dimanche des jours sans le Dieu et vivre dans l'espérance des ancêtres déchus, des Jacques et des Garance, des paradis perdus. Peut-être une fois qu'il est temps de devoir de repartir au loin, de laisser au plaisir l'envie de nous guider, se baigner dans l'amour, se noyer dans le vin.
Voltairine étudie ensuite pendant 3 ans et demi dans un couvent où son père l'envoie pour combattre sa paresse et son absence de bonne manière. Alors pourquoi cet homme anticlérical et libre penseur a-t-il pris une telle décision ? Ah, ma foi, ça c'est pas. Sans doute peut-être exaspéré par la situation économique dans laquelle il se trouvait, voulant pas que Voltairine connaisse la pauvreté. Il espérait peut-être que la formation acquise au couvent aiderait sa fille à se défendre dans la vie. Ouais. En tous les cas, cette expérience va influencer la petite, tout ce qui suivra en découlera. Si elle a appris beaucoup de choses, notamment à parler français, à jouer du piano, ce séjour dans une institution catholique poussa son esprit rebelle dans une direction, on dira, anti-autoritaire.
Yeah.
dans son essai « Comment je devins anarchiste », Voltairine explique l'impact et l'influence durable du couvent sur sa pensée. J'ai réussi, finalement, à en sortir. Et j'étais une libre penseuse lorsque j'en suis parti, 3 ans plus tard. Même si, dans ma solitude, je n'avais jamais lu un seul livre, ni entendu une seule parole qui m'ait aidé. J'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, et mon âme porte encore de blanches cicatrices, là où l'ignorance et la superstition m'ont brûlé de leur feu infernal durant cette sinistre période de ma vie. À côté de la bataille de ma jeunesse, tous les combats que j'ai dû mener ont été faciles, car, quelles que soient les circonstances extérieures, je n'obéis désormais plus qu'à ma seule volonté intérieure. Je ne dois prêter allégeance à personne et ne le ferai jamais plus. Je me dirige lentement vers un seul but, la connaissance, l'affirmation de ma propre liberté, avec toutes les responsabilités qui en découlent. Telle est, j'en suis convaincu, la raison essentielle de mon attirance pour l'anarchisme.
Tu ne fais pas l'unanimité dans cette école, je te l'accorde. Faut dire que tu l'as bien cherché, t'as semé le trouble et la discorde. Dans la cour de récréation, tu sais, qu'on ne regarde que toi. Tu fais des représentations, mais au final, on ne t'acclame pas. Pourtant, on t'en fait des rappels. On te demande d'être celui qui ne va pas manquer à l'appel, tant il fait office d'alibi, tant on se cache derrière lui. Et quand tu mets ta main dans ma main et que tes yeux m'appellent au secours, j'ai envie de te faire des câlins et te chanter des mots d'amour. T'es qu'un enfant, au regard là, que les adultes n'épargnent pas. C'est vrai qu'à 5 ans et demi, tu n'avais plus rien d'un enfant. T'avais déjà de la répartie et tu te montrais insolent. T'as même choqué toutes les maîtresses, la nouvelle s'est propagée vite. Quand un après-midi de sieste, tu leur as proposé du shit. Tu te vantais d'un père débrouillard qui pourrait leur en procurer. T'es fier de ce sacré lascar, à la démarche bien assurée. Et qui pourrait te le reprocher. Mais, quand tu mets ta main dans ma main, et que tes yeux m'appellent au secours, j'ai envie de te faire des câlins et te chanter des mots d'amour. T'es qu'un enfant, au regard là, que les adultes n'épargnent pas. Tu es le roi de la bêtise, des coups foireux, des mauvais plans. Et bien souvent tu martyrises à coups de poing tes dissidents. Niveau langage, tu ne connais que ça. T'excelles dans la violence verbale. C'est le prix à payer quand on a hérité d'un papa brutal. Les coups de ceinture sur ton visage sont autant de scarifications. Symbole des rites de passage vers l'univers de la soumission, celui de l'incompréhension. Alors, quand tu mets ta main dans ma main et que tes yeux m'appellent au secours, j'ai envie de te faire des câlins et te chanter des mots d'amour. T'es qu'un enfant, au regard là, que les adultes n'épargnent pas. T'es maltraité par tes parents, par le système éducatif, et dans la salle des enseignants, tu sais. Tu aurais bien des gifles à tous ceux qui n'ont pas compris que ton cartable c'était ta croix et qui plus est ont du mépris pour ta jolie main de Fatma. Je te décerne le prix du courage, la palme d'or de la franchise. Tu seras le premier en haut de la page de mes souvenirs d'institutrice. Tu seras le premier de ma liste parce que tous les jours tu me tends une main si forte et fragile à la fois. Pour m'assurer que demain sera plus clément avec toi, je t'emmène au pays des mots, pour que plus tard, tu te connaisses. Je t'emmène au pays des mots, pour que tu saches que tu es beau.
Quel quitte le couvent, Voltairine se met à donner des cours particuliers de musique, de français, d'écriture, de calligraphie. Activité qui lui permit de gagner son pain jusqu'à sa mort. Elle commence parallèlement une carrière de conférencière et d'écrivaine. Voulant se débarrasser des influences autoritaires de l'Église sur sa formation intellectuelle, elle se lance avec ferveur dans le mouvement pour la libre pensée, en pleine croissance alors à l'époque. Selon l'auteur féministe Wendy McElroy, ce courant anticlérical, antichrétien, voulait obtenir la séparation de l'Église et de l'État afin que les questions religieuses dépendent seulement de la conscience et de la faculté de raisonner de chaque individu. Anarchiste et libre penseur eurent toujours beaucoup d'affinités car ils partageaient un point de vue anti-autoritaire et une tradition commune de radicalisme laïciste. C'est à travers son engagement pour la libre pensée que Voltairine découvrit donc l'anarchisme. Évolution classique à l'époque pour beaucoup de libertaires, en tout cas ceux qui étaient nés aux États-Unis. Nobody feels any pain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. En 1886, Voltairine commence à écrire pour un hebdo libre-penseur, The Progressive Age, et en devient rapidement la rédactrice en chef. À l'époque, elle donne des conférences dans la région de Grand Rapids, Michigan, où elle vit, et dans d'autres villes de cet état. Elle traite de sujets comme la religion, Thomas Paine, Mary Wollstonecraft, qui était l'une de ses héroïnes, et bien sûr, la libre pensée. Just can't fit. Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. Elle prend la parole à Chicago, Philadelphie, Boston. Elle participe aussi fréquemment à des tournées de conférences organisées par l'American Secular Society, association laïciste américaine. Tout ça à travers tout l'Ohio, la Pennsylvanie. Elle s'adresse à des groupes rationalistes, des clubs libéraux, des associations de libres penseurs. Sa réputation d'oratrice grandit, ses auditeurs trouvent ses conférences riches et originales, comme l'écrivit Emma Goldman. Elle envoie aussi des articles, des poèmes, principales publications laïcistes du pays. En 1887, En décembre, Volterine commence à s'intéresser aux questions économiques et politiques après avoir écouté une conférence sur le socialisme présentée par Clarence Darrow. Écrivant un article à ce sujet dans The Truth Seeker, elle remarque « C'était la première fois que j'entendais parler d'un plan d'amélioration de la condition ouvrière qui explique le cours de l'évolution économique. Je me suis précipité vers ces théories comme quelqu'un qui s'échapperait en courant de l'obscurité pour trouver la lumière. » Quelques semaines plus tard, Volterine se déclarait socialiste.
Écoute-moi, toi qui te crois seul au monde, tout seul abandonné. Faut trois fois rien pour entrer dans la ronde de tous les mal-aimés. Un violon, un jambon à ta porte, et tu verras rappliquer les copains. Tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain. Ta petite amie t'a largué en route, les filles c'est pas sérieux. L'amour est aveugle, à ça aucun doute. Et oui, ça crève les yeux. Suspends un violon, un jambon à ta porte, et tu verras rappliquer les copains. Tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain. Si c'est chaque fois la même chose, t'en fais non pas. Mon vieux, quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a. Suspends un violon, un jambon à ta porte, et tu verras rappliquer les copains. Tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain.
Volterine est attiré par le message anticapitaliste de ce courant socialiste et son appel à la lutte de la classe ouvrière contre l'ordre économique dominant. Cependant, son amour inné de la liberté ne peut se concilier avec les conceptions étatistes du socialisme. Volterine se trouve alors obligé de défendre le socialisme dans des débats avec les anarchistes, à un moment décisif pour l'histoire de ce courant. En effet, le 11 novembre 1887, quatre anarchistes sont pendus par l'État d'Illinois. Ils passeront à la postérité sous le nom des martyrs de Haymarket. Leur emprisonnement, leur procès grotesque et leur exécution déclenchent alors un vaste mouvement de solidarité, et ça dans le monde entier.
1, 2, 3, 4.
Quand dehors il fait froid, tu t'en fous pas mal de moi. En tout cas, c'est ce que je crois. En tout cas, c'est ce que je vois.
Juste un peu d'humanité, si c'est pas trop vous demander une petite place, s'il vous plaît.
Wow, juste un peu d'humanité, si c'est pas trop vous demander. Wow,
les deux cons qui nous gouvernent refuseront de se soumettre pour enfin admettre qu'ils ont créé la misère.
Aider les minorités, la fraternité disparaît.
Retourne
en arrière qui devient fatal.
Te ne pars pas la tête pour encore avancer.
Mais qui va disparaître dans quelques années. Car rien n'aura changé. Faut mieux en profiter. La situation se dégrade. De Marseille à Stalingrad.
Wow.
Quand dehors il fait froid, tu t'en fous pas mal de moi. En tout cas c'est ce que je crois. En tout cas c'est ce que je vois.
Juste un peu d'humanité si c'est pas trop vous demander. Petite paix s'il vous plaît. Aider les minorités, la fraternité disparaît.
Tu n'en tiens pas vos vies, la démocratie, non merci. Dans ma rue, un squat enfermé.
C'est
C'est pourtant la fierté du quartier. La police s'est pointée, les occupants sont dégagés. Les coupons ont volé, la violence gratuite sans aucune impunité.
C'est en fait en mai 1886 que Volterine entend parler pour la première fois de l'arrestation des anarchistes de Chicago. Elle s'exclamera alors qu'on les pende. Elle se trouve momentanément emportée par la vague d'hostilité contre les anarchistes, les syndicats et les immigrés qui se répand alors dans le pays. En effet, la presse entame une violente campagne à partir du 5 mai, le jour suivant, la tragédie de Haymarket. Petit rappel des faits peut-être. Le 1er mai 1886, une grève générale éclate dans les principales villes des États-Unis. Des centaines de milliers d'ouvriers manifestent dans les rues en exigeant la mise en application immédiate de la journée de 8 heures. Le combat pour la réduction du temps de travail a pris de l'ampleur depuis quelques années dans les principaux centres industriels du pays. Chicago est à l'avant-garde de ce mouvement que les anarchistes dirigent et organisent dans cette ville. La presse bourgeoise les dénonce constamment et les patrons craignent le pouvoir croissant des organisations ouvrières. Le 3 mai 1886, la police de Chicago ouvre le feu sur des grévistes, tuant et blessant plusieurs personnes. Les anarchistes appellent alors à un rassemblement de protestation le lendemain. Le 4 mai, un meeting se tient à Haymarket Square où plusieurs centaines d'ouvriers viennent écouter des syndicalistes radicaux. La police encercle le rassemblement et le déclare illégal. Les flics chargent les travailleurs, mais tout à coup, quelqu'un du côté des manifestants lance une bombe qui tue un officier de police et en blesse plusieurs autres. Les flics organisent immédiatement une série de descentes et de perquisitions dans les domiciles et les locaux des anarchistes, arrêtant et interrogeant des centaines de sympathisants. 8 hommes sont jugés responsables de l'attentat, déclarés coupables de meurtre, même si certains d'entre eux n'étaient même pas présents sur les lieux. 2 militants sont condamnés à perpétuité, un troisième à 15 ans, un quatrième se suicide parce qu'il dénie à l'État le droit de lui ôter la vie. Les 4 derniers seront pendus le 11 novembre 1887. Thank you. Volterine regrettera rapidement sa réaction initiale et un peu après l'exécution des martyrs de Haymarket, elle se convertit à l'anarchisme. L'anniversaire de l'exécution des martyrs devient une date importante pour le mouvement ouvrier international et particulièrement aux États-Unis. Les cérémonies organisées à cette occasion sont aussi l'occasion de se compter et de donner une nouvelle impulsion au combat contre l'exploitation. Petit à petit, et de plus en plus, les auditeurs trouvent les discours de Volterine particulièrement passionnés et stimulants. Elle prend la parole aux côtés d'autres anarchistes célèbres comme Emma Goldman, Alexander Berkman, Lucy Parsons, l'épouse d'un des martyrs de Haymarket, Albert Parsons, et l'une des organisatrices les plus infatigables du mouvement. Chaque année, Volterine participe à ces manifestations, même lorsqu'elle est profondément déprimée ou malade, car finalement elle y puise de l'inspiration et du courage. L'année 1888 marque un tournant dans la vie de la belle de Claire. C'est l'année où elle devient anarchiste, véritablement, écrit ses premiers essais, mais aussi l'année où, pendant une tournée de conférences, elle rencontre les trois hommes qui vont jouer un rôle important dans sa vie. T. Hamilton Garside, dont elle tomba passionnément amoureuse, James B. Elliott, dont elle eut un enfant, et Dyer D. Loom, avec lequel elle entretint une relation intellectuelle, morale et physique qui fut plus importante que celle d'avec Garside et Elliott, mais qui se termina, comme les autres, par une tragédie. Vous êtes bien sur Radio Wojonette, c'est les détourneurs de Corbillard. Aujourd'hui, on taille un costard à Volterine de Claire, anarchiste de son état.
Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse, je l'ai pas connue, je suis noir, né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore, rien me blesse. Et pourtant, j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y'a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse. Pourquoi suis-je si radical? Me méfie des mains tendues trop amicales. N'ai aucune tendresse pour mes tours verticales, ni la bonne humeur de mon île tropicale. Tout ce que j'énumère n'a aucun humour. Et noir et amer, froid et sans amour, fade et sans saveur, et a dans son sommaire un lexique et une grammaire pour cracher sur leur mère. Pourquoi suis-je si marginal? Épouse la cause du faible de façon machinale, ne vois que du complot dans les lignes du journal, n'arrive à dormir que dans un bruit infernal, puisque j'ai les nerfs, l'impression qu'on m'ignore, et que de toute manière on en veut à ma crinière. C'est sans aucune lumière que je sors de ma tanière, avec un poignard imprimé sur la bannière. Pourquoi suis-je si peu sociable, aussi sensible, pénible, irresponsable, et me sens seul quand mes semblables me prennent pour cible? Pourquoi être stable dans ma tête est impossible? Parce que j'ai vu venir de loin mon calvaire, braquer mon avenir avec un revolver. Je préfère vous prévenir, j'ai de la colère dans le regard quand je marche sur vos boulevards. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse, je l'ai pas connue, je suis noir et né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore rien me blesse, et pourtant j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse, et y'a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse. Cette belle insouciance de l'enfance, moi elle me ramène à ma province, à Rouen, jolie petite ville de France, où quand le nègre passe, y'a des dents qui grincent. Je vous en prie, s'il vous plaît, tuez-les tous, vous ma très sainte Marie, pleine de grâce. J'ai sorti les ciseaux de ma trousse avec la frousse et l'intention de leur faire mal à la sortie de classe. Je rumine, je ressasse, sans cesse je repense au son d'eau dans ma face qui a tué ma petite enfance. Et ces baves de la dame de service, j'ai fait payer son fils, à la finale c'est moi qui le punisse. Et dans ma jeunesse, je leur ai filé la jaunisse. Au collège, ils me connaissent, se plaignent et ils gémissent. La proviseure est une connasse qui me vire et me menace d'appeler la police pour ma sale tignasse. Et les profs me provoquent, chaque jour me convoquent et me disent qu'on me scolarise pour les allocs. Donc je réplique, moi l'enfant de la République, on me rétorque que tout ce que je mérite c'est des claques. Donc j'attaque, affrontement physique et mise à sac. Ma tête est comme saturée et à bloc. Tout ça n'a pas de sens, mais tout ça laisse des traces. Et je ne dis rien à ma mère le soir quand elle m'embrasse. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse, je l'ai pas connue. Je suis noir et né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore un rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passe mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y'a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse.
Peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse.
Vous voulez dire, il suffit de peu de choses pour construire un enragé. Il suffit de peu de choses pour construire un engagé.
Premier homme dans la vie de Voltairine, Garside, qui donnait lui aussi des conférences sur la lutte sociale. Et lorsqu'elle tombe amoureuse de lui, elle n'a que 21 ans. Il rompt rapidement avec elle et ce rejet la frappe cruellement, comme en témoigne nombre de ses poèmes de l'époque. Cette première expérience négative la plonge dans une grave dépression, avivant sa sensation d'isolement, mais stimulant aussi sa réflexion féministe sur les relations entre les sexes et la façon dont la société réduit petit à petit les femmes à un simple rôle d'objet sexuel. La relation suivante, avec d'ailleurs Loom, fut d'un tout autre ordre, car elle influença profondément son évolution politique, construisant tous les deux une amitié indéfectible. Loom avait 27 ans de plus qu'elle, une grande expérience politique, il avait appartenu au mouvement abolitionniste, c'est comme ça qu'on dit, ouais, abolitionniste, et s'était porté volontaire pour se battre pendant la guerre de sécession afin d'en finir avec l'esclavage. Il connaissait bien la plupart des martyrs de Haymarket et avait milité avec eux. C'était un auteur prolifique et ils écrivirent à quatre mains un long roman social et philosophique qui ne fut malheureusement jamais publié, perdu à jamais. Ils menèrent aussi un travail de réflexion politique en commun. À l'époque, des débats très violents opposaient les différentes tendances idéologiques du mouvement anarchiste. Voltairine et d'ailleurs Loom écrivirent de nombreux articles pour les publications de ces divers courants et avancèrent l'idée d'un anarchisme sans adjectif. Dans l'un des essais les plus connus de Voltairine, l'anarchisme, elle défend l'idée d'une plus grande tolérance dans le mouvement anarchiste, étendant cette tolérance jusqu'à l'anarchiste chrétien Tolstoï et d'autres penseurs très critiqués par les athées du mouvement.
A lace cap with wings, a miraculous servant or Sister Mercury. Her profile, her gestures, once elusive, now expanding in perfect miniature. He called for tea, which was a long time in coming. He laid back and thought of his uncle's house and the drawing room watched in violent light. In the garden, a girl with an umbrella turning. He felt a bit ill and the tea was tepid. He pressed the damp bags against his closed lids and fell into a series of stills. Photographs, a pale orchid crushed by a hand paler still. A girl without a jewel.
Si les idées de Voltairine, de Claire et d'ailleurs Loom convergeaient sur de nombreux points, il est bon de souligner qu'ils avaient aussi des divergences importantes, notamment en ce qui concerne la position des femmes dans la société actuelle et ce qu'elles devraient être. À ce sujet, Voltairine prend une position plus tranchée que Loom. Ils n'ont pas non plus le même avis sur les moyens de changer la société. Loom pense que la révolution provoquera inévitablement une lutte violente entre la classe ouvrière et la classe patronale, conviction qu'il tire notamment de la guerre de sécession, et des effets qu'elle eut sur l'abolition de l'esclavage. Voltairine, elle, penche plutôt pour la non-violence, même si, lorsqu'elle désapprouve les différents assassinats commis par des anarchistes au tournant du XXe siècle, elle cherche toujours à en expliquer les raisons. Lorsque le président McKinley fut abattu par Léon Xolotz, elle déclara que la violence du capitalisme et l'inégalité économique poussaient les gens à utiliser la violence. Les opinions non violentes de Voltairine de Cleyre et sa compréhension pour ceux qui utilisent la violence vont être brutalement mises à l'épreuve à la fin de l'année 1902. Mais ça, chers auditeurs et auditrices, c'est une toute autre histoire, celle de la semaine prochaine.
Les femmes en zibeline promènent leur grand style devant les vitrines des grands magasins. Dans cet immobile, leur regard de bille, ces âmes futiles n'ont pas la vie facile. Des dollars s'alignent dans leurs yeux qui brillent. Elles veulent avoir chaud car l'hiver les tient. Et sur les réclames dans les magazines, on empile des fesses, des bouches et des seins. Elles pleurent de détresse, personne ne les touche, pas même les singes, les loups ni les ours. Alors elles achètent pour leur peau satin des poils de tigresse, des peaux de lapin. Des dollars s'alignent dans leurs yeux qui brillent. Elles veulent avoir chaud car l'hiver les tient. Et sur les réclames dans les magazines, on empile des fesses, des bouches et des seins. Les femmes en zibeline dans les quartiers chics leur trésor sur leur petit sein. Les destins tragiques des animaux morts qui caressent leur corps quand l'hiver les tient. C'est leur seule caresse puisqu'on les délaisse. Leur petit toutou brisé, ça laisse. Et sous leur renard, elles n'ont qu'un espoir: vendre la peau de leur ours pour l'amour ce soir.
La semaine prochaine, même endroit, même heure, Radio Brogionette, les détourneurs de Corbillard, dès 18h, la suite du portrait de Voltairine de Cleyre. Salut, salut.
Nights in white satin, never quite reaching the end. I've got letters here I've written I never meant to send. Beauty I've always missed with these old eyes before. Just what the truth is, I can't say no more. But I love you, I love you, I love you, I love you. Gazing at people, some of them walking hand in hand, exactly what I'm going through, I don't think they can understand. Some of them try to tell me thoughts they can't even defend. Whatever it is you wanna be, you gon' be in the end. But I just wanna say I love you. I love you. I love you.